Avertissement rap grande culture numéro 9 du 25 juin 2021, lu par Isabelle Fréchette. Cet avertissement traite de maïs dit sans racines et des autres causes pouvant expliquer la présence de plants tombés ou cassés, de cicadelles de la pomme de terre dans la luzerne, du méliguette des crucifères dans la culture du canola, de l'importance du suivi après un traitement herbicide, de problèmes de contrôle du chénopode avec du glyphosate, du puceron du soya, de carence en manganèse et de la fusariose de l'épi chez les céréales. Plants de maïs tombés ou cassés, causes possibles. À cette période de l'été, il est possible d'observer des plants de maïs cassés à la base ou tombés au sol. Ce phénomène peut avoir plusieurs causes. Un diagnostic précis est important afin d'apporter les correctifs appropriés. Maïs sans racines, aussi appelé rootless ou floppy corn. Ce phénomène s'observe surtout entre les stades 3 et 8 feuilles du maïs. Les plants sont couchés sur le sol, reliés à celui-ci par seulement une ou quelques racines. Ces plants n'ont presque aucune racine nodale, celle-ci étant très courte et ne permettant pas d'ancrer le maïs dans le sol. Elle ne présente aucun signe d'alimentation par des insectes, tels que des galeries. Elles sont simplement desséchées et décolorées. Lorsque le maïs a environ 8 feuilles, son système de racines nodales est relativement bien établi. Si le sol est très sec en surface pendant la période qui précède ce stade, le développement de racines nodales peut être compromis. Le problème peut être accentué par un semis peu profond, la compaction de surface ou le lissage, car il contribue à positionner les racines nodales dans un environnement sec au début de leur développement. Le maïs sans racines est souvent confondu avec des dommages de larves de chrysomèle des racines du maïs, mais à cette période de l'été, peu de larves ont commencé à s'alimenter. Certains herbicides peuvent aussi causer des dommages aux racines du maïs. Il faut envisager cette possibilité en fonction de l'historique d'application d'herbicides dans le champ. Seule une pluie aidera à corriger la situation pour les plants de maïs sans racines qui ne sont pas encore versés. Il est envisageable de passer un sarcleur entre les rangs pour renchausser les plants de maïs, mais si le sol est très sec, cela n'ajoutera aucun sol humide à la base des plants. Dans l'avertissement, vous avez un montage photo montrant le symptôme de maïs dit sans racines, donc des plants tombés au sol. Et vous avez également un plant de maïs avec des racines nodales peu développées, reliées au sol par seulement quelques racines. Dommages d'oiseaux. Des oiseaux, tels que des corneilles, peuvent s'attaquer aux plants de maïs. Les dommages peuvent être observés lors de la levée de la culture jusqu'au stade 4 feuilles. Les oiseaux arrachent les plantules pour manger les semences. La présence d'excréments d'oiseaux près d'une plantule arrachée et la semence mangée, c'est-à-dire absente, permettent d'appuyer l'hypothèse. Souvent, les dommages sont observés dans des champs entourés de bois et dans des zones du champ privilégiées par les oiseaux. Le rap maïs sucré a produit une fiche technique sur le sujet. Vous pouvez la consulter pour connaître les méthodes de prévention et de lutte. Dommages d'herbicides. Les herbicides du groupe 4, de type hormonal, peuvent causer une cassure des plants de maïs à leur base. Ce phénomène peut se produire lorsque la dose est élevée, que le stade maximal du maïs indiqué à l'étiquette est dépassé et ou que la température est trop élevée autour de la date d'application. Certains hybrides de maïs sont plus sensibles que d'autres à ce type de dommages. Donc, dans l'avertissement, vous avez également un montage photo montrant des dommages d'herbicides du groupe 4, donc des plants de maïs qui commencent à verser et des plants qui ont une cassure nette à la base. Pour plus d'informations sur d'autres causes de verse du maïs, consultez le bulletin Plants de maïs en forme de col d'oie, causes possibles. Luzernière, faible abondance de cicadelles en général, sauf pour un cas rapporté en Montérégie-Ouest. Lors des dépistages effectués cette semaine, la cicadelle de la pomme de terre était présente dans les 14 champs suivis au Québec via le RAP Grande Culture. Les populations étaient inférieures au seuil d'intervention. Plusieurs luzernières ont pu profiter des pluies des derniers jours, diminuant le stress hydrique et du même coup, augmentant la capacité à tolérer la présence de cicadelles. Les fortes pluies peuvent faire tomber les nymphes. Les tempêtes peuvent aussi aider les cicadelles à migrer vers d'autres champs. En dehors des sites ciblés par le RAP, une luzernière en implantation située à Saint-Anicet, dépistée le 22 juin, avait dépassé le seuil d'intervention et les symptômes étaient bien visibles. Considérant l'impact que cet insecte peut avoir sur le rendement et la qualité du fourrage, les producteurs sont invités à dépister leurs prairies, en particulier dans leur luzernière en implantation, et ce, avant de voir les symptômes apparaître. Le dépistage des insectes devrait se faire tous les 5 à 7 jours. Le suivi pourrait être nécessaire jusqu'à la mi-août, moment où les cicadelles réduisent leurs activités. Pour plus d'informations, consultez l'avertissement numéro 8 du 18 juin 2021 et la fiche technique « La cicadelle de la pomme de terre dans la luzerne ». Mi-liguette des crucifères, parfois abondant dans le canola, mais sans affecter le rendement. La présence de mi-liguette des crucifères dans deux champs du Saguenay-Lac-Saint-Jean a été signalée au RAP Grande Culture cette semaine. Ces sites sont au stade 8-9 feuilles et les boutons floraux commencent à apparaître sur quelques plants. C'est surtout au stade bouton et début floraison que la culture pourrait être plus vulnérable aux dommages de cet insecte, mais compte tenu des seuils d'intervention très élevés, les risques pour la culture sont faibles. Il n'existe pas de seuil validé pour le Québec, mais les densités de population recensées par le RAP entre 2011 et 2020 se sont maintenues largement en dessous des seuils utilisés en Europe. La densité maximale recensée par le réseau était d'environ 850 mi-liguettes par coup de filet fauchoir. Avec une telle densité, les mi-liguettes sont très visibles dans le champ et les captures paraissent impressionnantes, mais elles restent 7 fois inférieures au seuil. Il est important de noter qu'il n'existe actuellement aucun insecticide homologué pour lutter contre le mi-liguette des crucifères. Les dépisteurs du RAP Grande Culture suivent les insectes pouvant être capturés à l'aide d'un filet fauchoir au stade bouton. Pour le moment, sur les 30 champs suivis par le réseau, seuls 3 ont été dépistés, 2 en Chaudière-Appalaches et 1 en Abitibi-Témiscamingue. Les quantités de mi-liguettes capturées étaient nulles pour 2 d'entre eux et très faibles pour l'autre. Pour en savoir plus sur la biologie, la méthode de dépistage et les seuils d'intervention, consultez la fiche technique sur le mi-liguette des crucifères. Importance du dépistage des mauvaises herbes après un traitement herbicide. Plusieurs champs ont déjà reçu un traitement herbicide de post-levée. Pour vérifier l'efficacité du traitement, visitez les champs 2 semaines après l'application. Pour certains produits, les effets sont visibles après quelques jours seulement, alors que d'autres produits prendront plus de temps pour agir de manière optimale sur les populations de mauvaises herbes. Les éléments à considérer lors du dépistage post-traitement sont les espèces de mauvaises herbes présentes, le stade de croissance, la localisation et l'abondance de celles-ci. Il faut aussi évaluer l'efficacité du traitement, c'est-à-dire le pourcentage de dommages aux mauvaises herbes. Et vérifier que la culture ne présente pas de signes de phytotoxicité. Pour en connaître davantage sur les différents aspects du dépistage des mauvaises herbes, il existe 4 vidéos produites par la coordination des services conseils. Le dépistage par la cartographie des mauvaises herbes, le dépistage des mauvaises herbes au printemps, le dépistage des mauvaises herbes à l'automne et le dépistage de la résistance des mauvaises herbes. C'est cette dernière vidéo que vous pouvez visionner à partir de l'avertissement. Interprétation des résultats du dépistage post-traitement. S'il y a des mauvaises herbes qui présentent très peu de dommages ou qui ont produit de nouvelles feuilles en santé, voici des questions à se poser. Est-ce que la mauvaise herbe est à un stade plus avancé que celui recommandé sur l'étiquette? S'agit-il d'une espèce de mauvaise herbe qui n'est pas identifiée sur l'étiquette de l'herbicide? Est-ce que les conditions météorologiques avant, pendant ou après le traitement ont pu nuire à l'efficacité du traitement? Est-ce que les conditions de chaleur ont fait en sorte que la matière active de l'herbicide a été transportée rapidement à l'extrémité des plants sans se rendre au point de croissance secondaire? Peut-il y avoir une erreur de dosage, l'utilisation d'une eau de mauvaise qualité ou l'utilisation d'une quantité de bouillie inadéquate? Si la réponse est non à toutes ces questions, il est possible qu'une ou plusieurs espèces de mauvaises herbes soient résistantes à l'herbicide. Pour plus d'informations sur le diagnostic des cas de résistance, consultez votre trousse résistance des mauvaises herbes. Pour certaines mauvaises herbes et herbicides, des tests moléculaires permettent d'obtenir une réponse dans un court délai. Dans plusieurs cas, cela permet d'intervenir rapidement pour contrôler les mauvaises herbes résistantes. Que l'hypothèse de la résistance soit écartée ou non, voici des éléments à considérer lorsqu'on envisage une mesure de contrôle additionnelle. Est-ce que l'abondance des mauvaises herbes est suffisante pour justifier une intervention? Dans le cas de plants résistants, la tolérance zéro doit être appliquée. Est-ce que la localisation et le stade de croissance de la mauvaise herbe permettent d'entreprendre des mesures de contrôle non chimiques, par exemple contrôle mécanique ou de l'arrachage manuel? Y a-t-il des herbicides qui peuvent être utilisés efficacement au stade actuel de croissance de la mauvaise herbe et de la culture? Est-ce que l'intervention devrait être faite dans tout le champ ou seulement dans certaines parties, c'est-à-dire faire des interventions localisées? N'hésitez pas à consulter votre conseiller agricole afin de développer un plan d'action adapté à votre champ. Dans l'avertissement, vous avez aussi deux liens vers des documents de référence, une sur les informations utiles pour la gestion des mauvaises herbes, incluant celles résistantes aux herbicides, et un lien vers la plateforme « Gérer la résistance maintenant ». Problème de contrôle du chénopode blanc avec du glyphosate. Cause possible. Un problème de contrôle du chénopode blanc avec du glyphosate a été constaté dans certains champs cette année. Ce phénomène peut être expliqué par différentes causes, dont la taille de la mauvaise herbe, les conditions météorologiques les jours précédents, pendant et après l'application, la qualité et la dureté de l'eau utilisée pour le traitement et l'ajout de certains produits dans la bouillie. Pour plus de détails, consultez l'avertissement numéro 10 du 19 juillet 2019. Pas d'inquiétude face à la présence de pucerons dans les champs de soya en juin. Il n'est pas rare d'observer le puceron du soya dans les champs de soya dès la mi-juin. Quelques plants peuvent porter des centaines de pucerons, mais ce n'est pas forcément alarmant, puisqu'un tour du champ devrait permettre de valider si le ravageur est restreint à quelques petits foyers. Toutefois, ces pucerons pourraient coloniser le reste du champ ou migrer ailleurs, d'où l'importance du suivi des champs réalisé par le RAP Grande Culture sur plusieurs semaines. Les ennemis naturels, dont les coccinelles, sont efficaces pour contrôler les populations de pucerons et elles sont bien présentes dans les champs en ce début de saison. Pour cette raison, l'application d'insecticides à ce moment-ci n'est généralement pas recommandée. De plus, un traitement n'étant jamais efficace à 100%, les survivants pourront se reproduire et générer une descendance abondante en juillet lors de la floraison, stade pendant lequel l'impact du ravageur peut être plus important pour le soya. En 2021, le RAP Grande Culture suivra une soixantaine de champs de soya afin de vous informer sur la pertinence ou non de dépister l'insecte dans votre région. Les avertissements débuteront la semaine du 12 juillet ou avant si la situation le justifie. Pour plus d'informations sur le puceron du soya et sur l'identification des ennemis naturels, consultez le bulletin d'information « Stratégie d'intervention recommandée au Québec contre le puceron du soya » et la vidéo « Le dépistage du puceron du soya » en 5 points. Carence en manganèse, comment diagnostiquer et que faire? Des symptômes de carence en manganèse sont observés dans certains champs de céréales. Les plants atteints ont un port affaissé et les nervures des feuilles sont vertes alors que le reste du limbe est jauni, donnant une apparence striée aux feuilles. Les symptômes de cette carence pourraient apparaître dans les prochaines semaines dans les champs de soya. Dans tous les cas, un diagnostic précis permettra d'apporter un correctif aux besoins. Attention de ne pas confondre la carence en manganèse avec certaines maladies, des phytotoxicités causées par des herbicides ou d'autres causes. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'information « La carence en manganèse dans les céréales à paille et le soya ». Dans l'avertissement, vous avez deux photos, une montrant les symptômes de la carence dans le blé et l'autre montrant les symptômes de la carence dans du soya. Rappel, des cartes interactives sont disponibles pour évaluer le risque d'infection par la fusariose de l'épi. Les producteurs de céréales sont appelés à surveiller le développement de leur culture. Le stade de sensibilité à l'infection par la fusariose de l'épi se situe entre l'épiaison et la floraison. Afin de les aider à prendre leurs décisions quant à la pertinence d'appliquer ou non un traitement fongicide, les producteurs et leurs conseillers peuvent consulter des cartes interactives qui présentent le niveau de risque d'infection causant la fusariose de l'épi. Pour plus d'informations sur cet outil d'aide à la décision, veuillez consulter l'avertissement numéro 9 du 23 juin 2020 qui comprend notamment des points à considérer lorsque les cartes prévisionnelles donnent un niveau de risque moyen. Des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l'avertisseur du réseau Grande Culture ou le secrétariat du RAP.